My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices de Radio 16. Nous sommes dans Les Enfants du Nouveau Monde. Et bien que d'habitude, dans notre émission, nous nous intéressons plutôt aux initiatives positives qui vont dans le sens de créer un nouveau monde, il me semble qu'à certains moments, on ne peut pas faire l'impasse sur les obstacles et sur ce qui fait qu'on a du mal à le créer quand même, ce nouveau monde, et qu'il y a beaucoup de choses qui viennent faire obstacle à nos envies. Notamment au niveau politique et économique, puisque bien sûr tout ça est lié. Vous avez peut-être entendu parler du TAFTA. Le TAFTA, c'est le traité transatlantique de libre-échange, on va dire. En anglais, c'est Transatlantic Free Trade Agreement. C'est ce projet de grand marché transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne qui est en train de se négocier en ce moment dans les hautes sphères du pouvoir et dont nous n'entendons très peu parler. Il y a quelques associations qui essayent de s'intéresser à cette question, de savoir ce qui est en train de se faire derrière les coulisses, loin des citoyens, pour essayer de nous donner de l'information là-dessus. Ça représente de gros risques, ce TAFTA. Donc j'ai avec moi aujourd'hui, pour en parler, Annie Durand, bonjour.
Bonjour.
Annie, qui est donc médecin à la retraite, membre des collectifs anti-gaz de schiste ici, dans la région de Bessèges.
Voilà, il y a deux collectifs qui travaillent ensemble depuis le début, qui sont le collectif Ozonée 16 et Gagnère, dont fait partie Bessèges, et le collectif des Hautes-Cévennes, qui recouvre la communauté de communes des Hautes-Cévennes.
Voilà. On est aussi accompagné de Frédéric Jacquemart, scientifique, ancien chercheur, impliqué dans plusieurs associations de protection de l'environnement et de la culture. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Et bienvenue. Vous aussi, vous faites partie des collectifs anti-gaz de schiste, hein ?
Oui.
Voilà. Et puis nous avons Nelly Fontaine, qui est bibliothécaire à Gagnère, avec une formation de juriste qui, elle, s'est plongée vraiment corps et âme dans la question du TAFTA.
Bonjour. Bonjour à tous, tout à fait, pour essayer de dénouer avec mes amis les écueils de ce traité de libre-échange qui devrait, a priori, être conclu aux alentours de l'année 2017. On ne sait pas trop, c'était prévu plus tôt, mais la date a été reportée, a priori.
Mais c'est quand même très proche et ça arrive à grands pas. Donc, merci d'avoir plongé votre nez de juriste dans ce gros dossier qui est quand même pas simple à comprendre. Donc là, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'en tirer les grandes lignes, de comprendre les dangers, de comprendre leurs objectifs et de savoir comment on peut se mobiliser, en tout cas pour faire valoir nos valeurs qui apparemment sont largement différentes. Alors, est-ce que Annie Durand, vous voulez nous parler de comment vous avez commencé à vous intéresser à cette question au sein des collectifs anti-gaz de schiste ?
Alors, tout le début, en fait, parce que comme vous l'avez dit, c'était en train de se négocier au niveau de l'Europe entre les commissaires européens qui ont mandat pour ça et les États-Unis. Et en fait, personne n'avait d'informations là-dessus. Et ce sont des élus européens et puis des journalistes qui ont commencé à donner des informations. Et les citoyens ont commencé, disons, des associations à s'intéresser à ce problème. Il s'est créé au niveau du Gard un collectif Stop TAFTA qui regroupe des syndicats, des associations, des partis politiques, etc. Et donc, nous, au niveau de notre collectif anti-gaz de schiste, s'est posé la question de savoir si ça avait rapport avec notre problématique et si le collectif souhaitait adhérer à ce collectif Stop TAFTA. Et nous avons pris la décision après en avoir parlé parce que effectivement ces accords commerciaux vont imposer des règles de fonctionnement au niveau de l'État, mais aussi au niveau de tous les échelons, même au niveau des communes, auxquels nous serons obligés de nous plier si jamais les accords sont votés.
C'est-à-dire que ce sont des accords supranationaux qui sont signés entre l'Union européenne et les États-Unis et qu'évidemment, si c'est signé, tous les échelons inférieurs, donc État, département, région, commune, etc., sont obligés de s'y plier.
C'est tout à fait ça. Dans la mesure où personne n'a son mot à dire sur ces négociations, parce que c'est quand même un peu fort que quelque chose qui concerne absolument tous les citoyens, après tous leurs élus, soit négocié sans que eux aient leur mot à dire, eh ben on s'est dit que nous, en particulier, qui nous battons pour préserver notre région contre les exploitations d'hydrocarbures, on risque d'être en face de lois qui nous empêcheront d'agir, tout simplement.
Concrètement, eh ben, que vous n'ayez pas le droit de défendre votre région contre les gaz de schiste, par exemple.
Voilà, parce que si un accord est conclu au niveau européen, enfin de l'Union européenne, eh bien, l'État français sera obligé de l'appliquer. Et par exemple, l'État français qui a modifié sa loi devant le mouvement citoyen en interdisant la fracturation hydraulique, eh bien, si ces accords interdisent ça, l'État français n'aura plus du tout d'action et donc les citoyens ne pourront plus être entendus.
En gros, le risque, ce serait qu'ils interdisent d'interdire. qu'ils nous interdisent
d'interdire. Ça, exactement.
C'est-à-dire que ces accords de libre-échange, ça fait, y a plein de gens qui voient pas le mal, hein, liberté, hein, mais sauf qu'on ne peut plus protéger. Il sera interdit de protéger nos régions contre les grands requins de l'énergie, par exemple, voilà. Qui voudront venir faire de la fracturation hydraulique dans nos régions pour obtenir du gaz de schiste, chose qui se fait à grande échelle aux États-Unis.
Oui, et malgré d'ailleurs une opposition de certains Américains, mais bon, ça se fait quand même. Mais surtout, le problème, si vous voulez, c'est que c'est encore plus vicieux. C'est-à-dire que si un État écoute ses citoyens, peu importe à quel niveau, et souhaite modifier ou interdire quelque chose ou faire un moratoire, il va être soumis à des amendes qui vont être tellement importantes que de toute façon, il ne pourra pas. Parce que imaginez une commune qui se retrouve avec 8 millions d'euros
de dommages et intérêts, souffle Nelly. Alors ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Parce qu'alors, du coup, non seulement il y a une loi, mais en plus, c'est coercitif. Et donc, l'État ou en tout cas l'institution qui voudrait aller à l'encontre de ces lois en disant qu'elles ne sont pas pour le bien commun, etc., pourrait recevoir des amendes et devoir énorme. Payer des dommages et intérêts. C'est assez terrible. Frédéric.
J'ajoute quand même, mais c'est important que même la procédure elle-même coûte tellement cher que c'est impossible pour une commune, une communauté de communes ou une région. Parce que la procédure elle-même se chiffre en coûts, en des millions d'euros. Donc simplement, on n'y va pas.
La procédure, donc là, vous parlez concrètement, si jamais une commune...
Si jamais il y a un conflit. Si elle est attaquée pour entrave au commerce, parce que ça va être le motif...
Entrave au commerce.
Voilà. Par exemple, vous voulez dire ma cantine scolaire, elle doit avoir un approvisionnement local. Ah, mais là, vous n'êtes plus dans la libre concurrence. Entrave au commerce. Et donc là, vous n'essayerez même pas, parce que vous savez que vous risquez d'être attaqué. Et ce simple risque suffit pour empêcher la prise de décision politique. Il faut comprendre le caractère extrêmement puissant et vicieux de ce système.
C'est vraiment une lutte contre le protectionnisme.
Oui, oui.
Le protectionnisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque un État ou en tout cas une institution politique prend le parti de défendre plutôt les intérêts de ses citoyens et de l'économie locale, on va dire, face à une économie internationale qui viendrait inonder le marché de ses produits, etc. On défend l'économie locale. Ça, c'est le protectionnisme. Là, on ne peut plus faire ça.
Exactement, c'est une demande en fait de levée totale des barrières douanières, des tarifs douaniers aux produits importés.
Alors ça concrètement, Nelly,
c'est-à-dire qu'en fait on met effectivement des taxes pour éviter à ces produits importés de détruire l'économie locale, pour permettre que les produits locaux restent compétitifs par rapport à ces importations massives. Or, il se trouve que nos gouvernants disent que ce n'est pas bien grave de lever les tarifs douaniers qui restent encore en place, puisque la plupart, effectivement, ont été enlevés, à l'exception de ceux qui sont qui protègent l'agriculture. Or, on sait très bien que les importations massives de produits agricoles américains sur le marché européen détruiraient complètement par leur afflux, leur importance, et le fait aussi que eux sont subventionnés, les producteurs américains, par leur État, par des aides fiscales qui nous sont interdites au nom des traités européens. Donc ça veut dire que c'est une destruction totale programmée en fait de notre agriculture locale ou des choix que nous pourrions faire de circuits courts. Parce que on peut vous expliquer aussi que ce traité envisage d'ouvrir le marché non seulement par la levée des tarifs douaniers, mais également par ce qu'ils appellent la levée des barrières non tarifaires. Or, les barrières non tarifaires,
qu'est-ce que c'est ?
Ce sont toutes les lois, les règlements internes aux États sur l'environnement, la santé, les lois de protection sociale, par exemple aussi le droit à un salaire minimum, tout ce qui peut protéger les individus, les plantes ou les animaux. Avec des lois qui sont basées sur des réflexions scientifiques que, sur certains points, les Américains contestent. C'est la raison pour laquelle, dans ce traité transatlantique, par exemple, ils ont pris la précaution de dire qu'il faudrait négocier ces règlements pour éviter de retarder ou d'empêcher le libre commerce. Et donc de mettre en place des structures qui pourraient analyser même en amont les règlements ou les lois que les parlements nationaux voudraient faire voter pour éventuellement les adapter ou les discuter avant même que les peuples ne se prononcent via leurs députés et permettre un commerce complètement libre, permettre notamment pour eux l'importation de produits OGM, et ça c'est Frédéric qui vous l'expliquera. Du poulet chloré, voilà, ou des porcs qui sont trafiqués avec des produits.
De tous ces produits qui en France sont interdits, voilà, parce qu'on s'est battu pour, parce qu'on a un principe de précaution en France qui n'existe pas dans d'autres pays, et ces autres pays se battent donc, voilà, notamment les États-Unis, pour nous vendre quand même toutes ces
produits. Et ils prévoient aussi donc de remettre en cause à chaque fois ces réglementations quand elles n'ont pas une base scientifiquement avérée. Enfin, c'est un peu leur vision des choses.
Il n'y a pas de principe de précaution. Non, tant que ce n'est pas prouvé que c'est dangereux, voilà, on peut vendre et on peut en donner jusqu'à ce que peut-être les gens soient malades.
Et ils contestent même la réalité de certaines de nos analyses scientifiques.
Le baby napolitain fana, oui j'ai bouffé du poulpe pendant 20 ans comme Antonio Montana. Pour moi tous les Français étaient de la sorte, mais que savais-je de la vie enfermée derrière une porte. Quelque chose dans le sang parle de tout bas. À Paris je suis perdu, en Sicile je suis chez moi. La Méditerranée chante dans mes paroles qui s'envolent. Je me rappelle à l'école, je voulais être différent, original dans le vent. Ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements. Interloquer les ignorants, glousser comme des idiots. Ok, j'ai laissé passer les rires. J'ai flippé, puis pardonné car j'aime mon peuple en mourir. Je fais l'américain, c'est un fait, mais qui se la joue français et pèse les pieds du petit maigret. Je hais ces types aux origines truquées. Que Dieu fasse miséricorde à la mémoire étriquée. Si tu n'es pas de ma famille et que ton crâne sonne creux, chante-moi tant que tu veux.
Tu veux voir l'americano, americano, americano.
Tu veux faire l'américain.
Tu veux voir l'americano, americano, americano. Tu veux voir l'americano, americano, americano.
Tu veux faire l'américain.
Tu veux voir l'americano.
J'étais fasciné par le pays, des buildings, des taxis jaunes et sing sing, des filles à maillot bronzé sur la plage, des limousines, des méchants indiens, des policiers qui gagnent toujours à la fin. Moi qui voulais devenir flic à New York paye désormais les affres d'être une crapule à Marseille. La télé faisait tout pour que mon songe vive. Je me nommais Philippe et rêvais de m'appeler Steve, jusqu'au jour où j'ai pris l'avion en 84. Et tout a changé dans ma tête, ce fut une belle claque. En fait très vite j'ai eu une honte terrible pour des 4 millions d'indiens d'Amérique. J'étais mon casque de baseball qui faisait rigoler mes amis à l'école. Et pourtant ils étaient aussi tous des petits Rital. Pourquoi ils voulaient danser le disco comme John Travolta? Le rêve américain ruine. J'irai poser des fleurs sur la tombe de Pépé Joseph à Brooklyn. S'il m'avait vu à 15 ans, il aurait sûrement dit avec son accent:
pour voir l'américain, américano, américano.
Tu veux faire l'américain,
pour voir l'américain, américano.
Je peux en parler puisque j'en viens de toutes ces choses étranges qui font rire les anciens. Les moqueries qui redoublaient pour que je craque. J'avais un trait dans ma coupe et c'était cool. Ils appelaient ça une autoroute et pour eux j'étais fou. Mon blouson starter qui valait tant de thunes, à leurs yeux était une veste pour marcher sur la lune. Mon style, ma vie, c'est un drame. Dans cette génération moderne où I love you est plus facile à dire que je t'aime, mais les vieux ont gardé cette antipathie depuis que les soldats américains ont débarqué, quand leurs filles tombèrent amoureuses des yeux bleus et que ces hommes achetaient leur nuit avec un chewing-gum. Alors quand on me taquine, je souris et si je ne suis pas d'accord, je respecte et je me tais. Je ne m'étonne plus quand mon peuple vit de passion, tant est vrai cette chanson.
Pour voir l'américain, américain.
Tu veux faire l'américain,
pour voir l'américain, américano, américano. Pour voir l'américain, américano, américano.
Tu veux faire l'américain,
pour voir l'américain, américano, américano.
Bye 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 bye.
La parole à Frédéric Jacquemart, qui est donc assez au fait de la question des OGM, et donc ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, Frédéric.
Oui, alors d'abord, c'est vrai que dans toutes ces questions-là, et ce soit TAFTA ou l'Organisation mondiale du commerce, parce que TAFTA, c'est une prolongation, une accentuation de ce qui existe déjà dans l'Organisation mondiale du commerce, si vous avez un argument à apporter qui est contraire aux règles de ces organisations-là, il faut qu'elles soient scientifiquement basées. Alors la question qu'on oublie de poser, c'est est-ce qu'il est possible de démontrer, un effet négatif? Mm-hmm. Or, il est assez facile de montrer, et ça nous l'avons fait nous dans nos associations, qu'il est à peu près impossible. C'est-à-dire que si vous mangez certains produits et puis que votre rat devient vert et explose, d'accord, oui.
Là, on a la preuve.
Mais pour tous les effets qui sont des effets chroniques et non spécifiques, eh bien, c'est pratiquement impossible, dans les conditions réelles, de démontrer une toxicité de ce type. Et par conséquent, on exige de démontrer quelque chose qui n'est pas démontrable scientifiquement. Voilà. Et ça, il faut quand même le dire. Donc, effectivement, on a là une barrière. Et dès qu'on essaye de faire comprendre qu'il y a des impacts sociaux, qu'il y a des impacts environnementaux qui ne se traduisent pas dans la méthode scientifique analytique, à ce moment-là, eh bien, on dit, vous n'avez pas le droit d'en parler. Donc, c'est eux qui ont fixé les règles du débat. Et en fait, l'essentiel du problème est là.
Quelles sont les choses dont on n'a pas le droit de parler?
Bon, par exemple, si vous prenez les OGM, vous avez, par effet rétroactif, une potentialisation de l'agriculture industrielle. Or, l'agriculture industrielle, je ne vais pas vous apprendre que ça a des impacts négatifs sur la santé et l'environnement qui sont considérables. Mais vous ne pouvez pas mettre ça en avant parce que c'est un effet indirect et vous ne pouvez pas le prouver scientifiquement. C'est ça juste une évidence.
Ouais. Oui, mais après, il y en a qui sont pour ce genre d'agriculture.
Non, mais
il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre.
C'est pas question d'être pour ou contre, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'avancer l'argument. Vous ne pouvez pas débattre de ce dont vous voulez débattre.
Okay. Oui, il n'y a pas d'espace de débat, c'est ça que vous voulez dire.
Le débat, c'est uniquement les termes qui sont imposés par les sociétés.
Mais concrètement, il y a quelque chose qui est assez facile à prouver, c'est que si on plante des OGM dans un champ et que le champ d'à côté, c'est un champ de... Si on plante des tournesols OGM dans un champ et qu'à côté, il y a des tournesols qui ne sont pas OGM, ils vont vite s'hybrider et que la personne qui essaye de faire ces tournesols naturels va rencontrer le problème de ne plus pouvoir garantir l'espèce naturelle de
son
tournesol.
Non, mais ça, c'est, pour eux, ce n'est pas un problème parce que s'il y a une contamination, ils vont vous dédommager sur la perte. C'est-à-dire que l'agriculteur bio qui ne va pas pouvoir vendre en bio, on va lui dire le différentiel de vente entre votre produit et le produit OGM, c'est tant de centimes. Alors pour le bio, c'est une perte de son identité.
Et, oui, mais à terme plus il y a...
D'autre part, vous parlez de coexistence, je vous donne un truc qui est patent, c'est que vous avez un problème au niveau de la coexistence économique. Puisque celui qui est non OGM et qui veut le certifier, il a un surcoût. Alors celui qui dit « je produis des OGM », il n'a pas besoin de les certifier. Donc vous vous mettez en situation d'une distorsion de concurrence.
Oui, mais ça existe déjà en dehors du fait des OGM. Je veux dire, la personne qui fait de l'huile de tournesol basique et celle qui fait de l'huile de tournesol bio, de toute façon, celui qui fait du bio, il a le problème de devoir être certifié et donc d'avoir un surcoût en dehors des OGM, de toute façon.
Oui, mais l'OGM rajoute. Vous avez des. Au niveau des analyses, ça coûte très cher, les OGM. Si vous voulez certifier une filière, c'est que ça coûte très cher. Si vous certifiez quelque chose, il faut que vous puissiez le prouver. Donc vous avez fait toutes les analyses génétiques qui montrent que vous êtes exempt. Ça coûte très cher. C'est pas du tout anodin. C'est pas une description de votre processus. Votre process, c'est vraiment...
Oui, donc vous, ce que vous voulez dire là, c'est que si on introduit les OGM, ça va coûter cher à tous ceux qui n'en font pas pour pouvoir prouver qu'ils n'en font pas.
Alors que ceux qui en font n'ont rien à prouver.
Voilà, donc ça, c'est un surcoût qui va arriver, qui sera nouveau pour nous, donc, pour tous les agriculteurs. Voilà. Pas seulement pour ceux qui font du bio, mais pour tous.
Mais bien sûr. D'accord. Et donc, effectivement, vous avez cette distorsion de concurrence qui fait partie de la coexistence. Et ça, vous ne pouvez pas le mettre en avant. Parce qu'on vous dit, ce n'est pas un argument scientifique.
Oui, mais c'est un argument économique.
Alors, c'est un argument économique. Là, je suis bien placé pour ça, parce qu'on l'a mis en avant. Et on nous a dit, OK, ça coûte combien ?
C'est très difficile à chiffrer.
On a demandé aux économistes. Ils ont dit, c'est pas possible de le chiffrer précisément. On a dit, vous ne pouvez pas le chiffrer précisément. On peut
parce
pas
que, bien sûr, ça dépend du nombre de champs OGM qui vont s'installer.
Parce que c'est extrêmement complexe.
Quand, comment,
donc,
évidemment. Voilà. Oui.
Donc, on n'a pas le droit d'en parler. Bon.
Et donc, vous n'avez pas le droit d'en parler. Ça, même pas possible d'aborder la question.
Vous pouvez en parler, mais ce ne sera pas pris en compte. Ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est uniquement ce qui est décidé par l'industrie. Toute l'évaluation des OGM a été décidée par l'industrie.
La protection de la semence, la protection de la semence naturelle n'est pas prise en compte. Parce que le risque à terme, c'est qu'effectivement, il y ait une contamination de toutes nos semences et qu'on ne puisse plus garantir de l'origine naturelle d'une semence ou d'une espèce végétale.
C'est un très gros risque, effectivement, qui s'est déjà concrétisé pour le soja, par exemple. Parce que pour le soja, eh bien, il est très difficile maintenant d'avoir des banques de graines qui soient exemptes d'OGM. Et ça va se généraliser. C'est un des gros problèmes que nous avons, c'est-à-dire que ce genre de technique s'impose de facto, même si vous n'en voulez pas, vous en avez.
Alors, ils en sont où, les faucheurs d'OGM ? Donc, en France, il n'y a plus d'OGM actuellement, c'est ça ?
En France, grâce à nous, il n'y a plus d'OGM en culture et en essai, et il y en a dans l'alimentation animale, bien sûr. Donc tout l'enjeu, c'est l'alimentation animale.
L'alimentation animale qui est produite ailleurs.
Qui est produite essentiellement ailleurs, bien sûr, et qui est composée pour tout ce qui est importé d'une grande majorité d'OGM. C'est au-delà de 80%, ce sont des OGM.
Donc là, le but du TAFTA, donc du traité de libre-échange transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, ce serait de généraliser les OGM sur le territoire français et ailleurs.
Alors c'est plus
pernicieux.
C'est plus sioux que ça. Mmh. Et c'est là qu'on voit comment ça fonctionne en réalité. Parce que vous avez tout le discours sur les accords, les règlements, etc. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez les anciens OGM, qui s'appellent des OGM, qui, bon, sont en fin de vie, comme le Mont 810, etc., dont on a beaucoup parlé. Tout ça, c'est terminé. On est en train d'écluser les stocks. Et puis, il y a les nouveaux OGM qui vont sortir sur le marché. Et tout l'enjeu, qui se trame actuellement, c'est que ces nouveaux OGM-là ne s'appellent pas OGM. Ah. S'ils n'appellent pas OGM, vous pouvez toujours certifier ce que vous voulez concernant les OGM. Ils échapperont.
Comment ils s'appellent, ces nouveaux?
Ils ne s'appellent pas, justement. Et donc, ils rentrent dans le circuit des plantes habituelles. Des plantes et des animaux habituels.
Hein. Mais génétiquement modifiés. Ils ont été génétiquement modifiés. Ça veut dire qu'on a introduit des nanotechnologies là-dedans.
Non, des nanos, ça, c'est possible. Mais ce sont des modifications génétiques qui... Bon, c'est difficile de rentrer dans les détails. Mais ce sont des modifications génétiques qui permettent à l'industrie de dire que ça ressemble à des mutants obtenus de manière classique qui ont été exclus de la réglementation. Et ils disent, OK, donc on va les exclure aussi de la réglementation. C'est une argumentation qui est totalement pernicieuse. Je l'ai d'ailleurs récemment dénoncée par une lettre ouverte que j'ai envoyée à la Commission européenne. Mais néanmoins, c'est ce qui va se passer parce que c'est aussi du goût de nos dirigeants. Parce que nos dirigeants actuels, ils disent non, on ne veut pas d'OGM, mais ils aimeraient bien se débarrasser du problème. Alors ça, c'est une bonne façon, c'est-à-dire qu'on ne les appelle plus OGM, et là, vous êtes tranquille. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus pernicieux que de... Et sur TAFTA, on nous dit, mais TAFTA ne concernera pas les OGM. Bon, d'abord, les juristes nous disent, c'est pas vraiment possible de les exclure. Et puis d'autre part, eh bien, si ça ne s'appelle pas OGM, eh bien, effectivement, vous pourrez faire ce que vous voulez, ils seront concernés par TAFTA.
Alors, Nelly. Si je peux rajouter justement pour montrer le caractère, je dirais, extrêmement vaste de cet accord, on a par exemple l'article 23 qui prône en fait, dans l'intérêt des multinationales, hein, bien évidemment, l'interdiction des mesures déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires qui pourraient freiner le commerce. Donc là-dessus, on voit bien qu'en plus ce sont des notions extrêmement subjectives, ce sont ces notions-là qui seront amenés à être jugés par ces fameux tribunaux privés.
Ah, il faut nous en parler, ça, Nelly, on n'en a pas encore parlé.
Voilà, mais devant la levée de bouclier, ils ont essayé, le Parlement européen a été un peu poussé par les citoyens pour émettre un vœu en juillet 2015 pour améliorer cette notion de tribunal arbitral, en fait, privé, dans lequel, qui est composé, en fait, d'experts. Désignés plus ou moins, enfin des experts qui sont souvent liés d'ailleurs aux multinationales et en fait qui seront amenés à juger du préjudice éventuellement subi par ces multinationales face aux États ou face aux communes, hein, puisque mes amis l'ont justement fait remarquer, c'est que cet accord s'appliquera à tous les échelons des États, hein, y compris le plus bas comme la commune. Et en fait, ce sont des notions très subjectives. Quelles sont les mesures déraisonnables pour une multinationale? Ce sera effectivement de vouloir protéger le sous-sol ou la région par la loi qu'on appelait loi Jacob, qui interdit le recours à la fracturation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste. Mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. C'est
donc
une loi extrêmement parfaite.
Donc cette loi de protection deviendra une mesure déraisonnable.
Tout à fait. Arbitraire ou discriminatoire, par exemple, dans nos marchés publics au niveau des communes ou des régions, on peut très bien introduire pour soumissionner, pour qu'une entreprise puisse avoir un marché public, introduire des notions de respect de l'environnement ou des notions de respect de droits sociaux, salaire minimum, etc. Or là, hein, on va nous dire, mais c'est discriminatoire, c'est arbitraire. Pourquoi est-ce qu'une entreprise américaine, ne souhaitant pas respecter telle ou telle loi environnementale, ne pourrait pas soumissionner? Donc là, on est en face vraiment d'un gros problème et d'un rouleau compresseur qui jouera contre les intérêts des populations locales. Alors cet article 23 aussi décrète que les entreprises étrangères devront avoir le même traitement national que les entreprises françaises. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, réorienter dans le cadre de la transition énergétique ou écologique, qu'on veut dans une région, dans un département, dans une commune, donner une subvention, une aide, même indirecte, à l'installation d'une entreprise, par exemple agricole, qui voudrait faire du bio, en lui cédant un terrain, par exemple à 1 euro ou 10 euros, pour l'aider à s'implanter, eh bien là, une multinationale américaine dit « Mais dites donc, moi je veux implanter telle ou telle industrie agroalimentaire, cédez-moi le terrain à 1 euro aussi, je vois pas pourquoi, moi j'aurais pas le droit. » Donc c'est extrêmement grave en fait. Et puis, il y a aussi le traitement de la nation la plus favorisée qui est posé comme principe. C'est-à-dire que si par exemple, la France, dans le cadre d'un autre traité commercial, a accordé des droits douaniers très bas à un type de produit, à une nation pour l'aider à se développer... des nations bon, en voie de développement, par exemple, eh bien, l'Amérique, les États-Unis viendront dire « Ah ben nous, on veut exactement le même type tarif. De tarif douanier. Voilà. » Donc ça, c'était juste ce que je voulais bien recadrer sur la dangerosité, en fait, de l'interprétation après devant ces tribunaux d'arbitrage privés qui pourront interpréter comme ils veulent ce qu'est une mesure déraisonnable ou arbitraire.
Alors justement, ces tribunaux d'arbitrage privés, comme vous nous dites, Nelly Fontaine, c'est ceux qui vont être en charge de gérer...
les contentieux.
C'est bien spécifié dans les accords du TAFTA que tous les contentieux seront traités par des tribunaux d'arbitrage privés.
Oui.
Donc privé, ça veut dire qu'il y aura qui dans ces tribunaux? Qui seront...
Alors, au départ, ils avaient dit que ce seraient des experts qui seraient désignés, un peu sur le mode de ceux qui sont désignés dans les tribunaux d'arbitrage qui sont chargés, dans le cadre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, de régler ces différends entre États. Et en fait, sauf que là, ce ne sont plus des différends entre États, ce sera un différend entre une multinationale personne privée et un État ou un représentant de la personne publique. Et à l'OMC, en fait, ben, ils sont cooptés entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont dans ces conseils arbitraux sont des gens désignés par les membres eux-mêmes de l'OMC ou qui désignent des listes avec des experts. Et ce sont des experts qui sont, comme je le disais, très souvent liés ou ont travaillé pour des multinationales, donc sont très à l'écoute de leurs problèmes et de leurs revendications en réalité. Donc le jeu est faussé. Alors comme ça dépossédait en fait les juridictions nationales du droit d'interpréter même leurs propres lois, parce que là on transfère à l'extérieur, par exemple, le droit d'interpréter une loi protectrice environnementale.
Tout à fait.
Ou la loi sur le gaz de schiste, ben là, ce sera interprété par des gens qui ne seront absolument pas bienveillants et qui ne seront même plus chargés en instance d'appel, c'est-à-dire pour faire appel éventuellement d'une décision, de décider de savoir si cette loi est constitutionnelle ou pas, si elle respecte la Constitution française, par exemple.
Oui, là,
ils sont
là,
plus chargés de vérifier la conformité de la loi avec la Constitution ou son interprétation. Donc c'est vraiment assez catastrophique. Alors comme c'était catastrophique, le Parlement européen a émis des vœux, toute une série de vœux en juillet 2015 pour demander à ce qu'on révise cette notion d'arbitrage privé. Alors effectivement, ils ont émis des vœux. Alors je vous passe le détail parce que je me suis repenchée là-dessus. Vous pourrez le trouver sur le site du Parlement européen en français. Et c'est un énorme mémorandum qui reprend d'ailleurs comme préambule, pour ça qu'il faut quand même s'en méfier aussi, qui reprend comme préambule que la libéralisation totale des marchés est un bien et qu'il faut respecter effectivement cette orientation. J'essaie de vous retrouver les termes exacts. C'est la promouvoir les principes de l'économie de marché, rejeter le protectionnisme et étendre et renforcer le système commercial multilatéral.
Ça veut dire qu'en fait, ça c'est le premier article.
Enfin, c'est décliné sur tout le préambule, si vous voulez, de ce qu'ils... Donc ils adhèrent complètement à la philosophie ultralibérale de cet accord. Et néanmoins, ils demandent à ce que soit respecté quand même un minimum de... les lois, en fait, l'interprétation des lois nationales. Alors, du coup, la Commission européenne est revenue sur cette question et a proposé de mettre en place proposition en fait de ce qu'ils appellent un système juridictionnel des investissements dans le cadre du TTIP. TTIP, c'est l'autre nom de notre accord transatlantique.
C'est l'autre nom du TAFTA.
Voilà.
D'accord.
Une proposition concernant donc ce qu'ils appellent ce nouveau système de règlement des litiges entre investisseurs et États, et qui vont appeler le système juridictionnel des investissements. Et alors là, la seule réelle nouveauté, c'est que cette espèce de cour, cette espèce de tribunal sera constitué de juges pleinement qualifiés et désignés par les pouvoirs publics. Voilà. C'est tout ce qu'on a gagné.
Ça, c'est un vœu.
C'est une proposition de négociation.
Une
c'est
proposition.
Ils vont se mettre à négocier cette présentation de ce nouveau système juridictionnel des investissements.
D'accord.
Pour essayer de le faire admettre par les Américains.
D'accord.
Mais tout ça, c'est quand même hors sol. Ce sera quand même détaché des juridictions nationales. Et on ne sait pas du tout comment ils vont l'articuler juridiquement. Si quelqu'un ou un particulier veut attaquer devant une juridiction française, on ne sait pas du tout comment ça va se passer.
Mmh.
L'articulation entre les deux, avec les niveaux de, les différents niveaux de procès, en fait.
Concrètement, les accords qui sont en train de se négocier là, ça dépossède encore un petit peu plus le citoyen de...
Tout à fait, mais c'est surtout que là, c'est un pavé dans la mare qu'ils viennent de jeter devant les Américains. On ne sait pas du tout si les Américains vont être accueillants ou bienveillants par rapport à cette proposition de la Commission européenne. Et on peut douter de son efficacité, de sa pertinence. Alors déjà, savoir quelles seront les personnalités qui seront désignées par la puissance publique, des juges pleinement qualifiés. Qu'est-ce que ce seront ?
Et les puissances publiques, qui sont ces puissances publiques ?
Est-ce
que chaque pays va...
Qui ? Comment ? Est-ce que les pouvoirs publics, ce sera le ministère de la Justice qui désignera des magistrats dits qualifiés, qui seront détachés ?
Ça reste assez flou.
Ah là, c'est complètement flou. Des juges qualifiés, on ne sait pas. Ça peut être aussi des experts qui seront promus juges, comme on a des juges dans les instances prud'homales, qui sont qualifiés de juges, mais qui sont des citoyens, en fait.
Mmh.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà.
Donc là, on n'a aucune assurance sur le truc. On a encore moins d'assurance là-dessus, dans la mesure où je me suis rendu compte ce matin en farfouillant sur Internet qu'il y a un autre traité de libre-échange qui s'appelle le CETA, qui vient d'être signé en septembre entre, enfin qui vient d'être signé en septembre 2014, hein, ça remonte déjà à un an, entre l'Europe, l'Union européenne et le Canada. Ce traité, non seulement a été signé et basé sur un tribunal arbitral qui est fait d'experts complètement privés et qui échappe complètement aux juridictions nationales. Donc là, je veux bien qu'ils improvisent quelque chose qui sera introduit dans le TAFTA avec les Américains. À la limite, les Américains, ils créent une structure filiale canadienne et ils reviennent par la porte avec le CETA. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, je crains qu'on se moque un petit peu du citoyen. Et deuxièmement, dans ce CETA, qui, soi-disant, est tellement protecteur des droits des citoyens européens, il se trouve que la Bulgarie a insisté énormément pour introduire dans l'annexe un codicille qui dit précisément que son Parlement a formellement interdit l'usage de la fracturation hydraulique sur son sol. La France ne l'a pas fait. Donc, je suis extrêmement sceptique sur les déclarations actuelles de communication du gouvernement via Madame Ségolène Royal, qui a fait appel, mais ça, Annie vous en parlera, de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui réoctroie, en fait, qui remet en piste notre permis de Montélimar, sachant que le gouvernement français n'a pas pris la précaution des Bulgares alors qu'ils avaient cette loi qu'on appelle loi Jacob qui interdit la fracturation hydraulique. C'est quand même curieux. Donc je
D'une
pense
part, il y a un discours
y a un
qui
double
nous dit
discours
oui,
permanent,
on va vous protéger,
il y a un double
etc.
discours permanent, mais
côté,
dans la réalité des faits,
ouais.
quand juridiquement on peut se défendre, la
Ce
France est absente.
Mmh.
Et D'accord. c'est un petit pays comme la Bulgarie qui a fait plier les Canadiens, les multinationales canadiennes, en rajoutant ce codicille.
D'accord.
Nous, on ne l'a pas fait.
De retour dans l'atmosphère, 6 ans d'absence, toujours les mêmes cris de guerre, toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes mystères. DJ Elias opère les machines et les platines, c'est le fire dans le district. Comme lyriciste et Mazar, c'est du lyric strict. Écoute, parce que de plus en plus ici-bas, y'a des balances comme à Hill Street. Du fond du cœur, y'en aura pas pour longtemps. Si t'es visé, sois sûr, tu prendras du bon temps, ouais. que j'ai acquis. Je dois à qui? Suffit de compter ma vie. Et qui se mettent le feu, tous ceux qui se plaisent à inventer ma vie. Self street érudit, après-midi pleine vie d'étudie. T'as aidé à ma place, qu'est-ce que tu dis? Planté dans une place vide avec mon poste la nuit. Je voyais pas ta poire quand c'était positif. Mais tu te ramènes quand y'a des tragédies. Mets ta cam au point, tes news couvrent l'insurrection. T'es perdu, se voit à l'écran. Et c'est de suite l'érection, tu le sais bien. Ton point est clair, voilà comment ces imbéciles nous représentent. Mentalité, format et malfaisante, biaisée. Frère, si à ce propos chante, laisse-moi m'exprimer. Car sur ce bout de terre, nos parents et amis aussi ont trimé. A qui la faute si ce pays est si déprimé, si déchiré? Quand le fait divers est érigé en généralité, leurs magazines d'infos font peur. A qui ça profite? La France a besoin de peu pour éveiller ce racisme historique. Il y a 4 ans, c'était l'euphorie, les yeux dans les bleus story. Puis des journalistes ont ramené la vie sociale vers un faux rythme, vers mensonge et audimat. Car plus que les gosses d'Irak, le français veut savoir si sa putain d'audit marche. Entendu par ces vendus peu scrupuleux, tous font la une sur l'insécurité, la raquette et le crapuleux, c'est vrai. Les séries françaises montrent flics et parias, si bien que ces chaînes sont de vrais commissariats. Mais c'est pas le pire, ils font croire aux gens que c'est l'état de siège. Parce que Chirac a parlé sécuritaire pour garder son siège. Je suis effondré, alors ne reste que nous, une pâle caricature. Style, ils ont pété le World Trade, ils peuvent niquer ta voiture. C'est ça la France, un bled dégré de mesquins. Alors on fait tous de la merde, et en voie de Giscard d'Estaing, je préfère écœurer. Si je buvais, je serais beurré. Comme salive, je compterais comment tout un public fut leurré. Comment des journalistes condamnés, auditionnés lavent le cerveau des vieilles qui ont peur de se faire saucissonner. Attribuant les couves à des clowns qui font rien de concret. Indulgents, subjectifs, partisans, intéressés, le véridique est délaissé. Délétère, rédac plein de chichi. Quand je vois tout ça, je pense que l'info ici c'est bichi. On n'a pas de bol, et vous pas de couilles, moi j'en ai ras le bol. Et si encore l'a priori pouvait rester rien que sur nos albums. 12 ans de bataille, et y'a encore des clichetons sur notre compte. Ici le rap pour eux, c'est délinquant sans bifton sur son compte. Alors on va leur donner ce qu'ils veulent, ouais. Une caricature minable de nous avec une grande gueule.
J'ai 15 pitbulls à la maison. Je suis un tueur, quand je tape c'est un génocide. Je vis dans la rue, je baisse la police, éventuellement les pompiers. C'est pas ma faute, je parle pas bien le français. Pour m'en sortir, c'est le foot ou le rap. Mec, si j'ai de la fraîche, moi j'achète un roadster. C'est nous dans notre cité, on est des gangsters. Moi c'est le racket, j'ai traîné 5 vieilles et on m'a relâché. Tranquille, on dit des kilos de shit dans le monde entier.
Je te dis franchement, je suis le visage que ça prend coupé de nos basses premières. Passif des gains, dis rien, tout se laisse faire. Je suis à la merci de patrons qui gassent dans leur building. Y'a de quoi pleurer, je te dis franchement, je suis le visage que ça prend coupé de nos basses premières. Passif des gains, dis rien, tout se laisse faire. Je suis à la merci de patrons qui gassent dans leur building. Y'a de quoi pleurer, y'a de quoi se barrer d'ici, je suis effaré. Ils en ont rien à carrer.
Pour moi, il y a une duplicité totale.
Entre ce qu'on dit aux citoyens et ce qui est négocié.
Et la réalité des signatures et des négociations.
Alors justement, Nelly, est-ce que vous avez, pouvez nous donner un peu plus de pistes sur comment sont négociés ces accords transatlantiques? Qui participe aux négociations, puisque ça a l'air d'être totalement obscur?
Alors c'est d'autant plus obscur qu'en réalité, toute l'histoire commence il y a à peu près 25 ans après la chute du mur de Berlin, où en fait l'Union européenne opte pour un rapprochement avec les États-Unis et un approfondissement du partenariat avec les États-Unis. Et d'ailleurs, il faut vous citer une phrase de Madame Hillary Clinton, qui paraît-il est très bien placée pour les prochaines élections, qui estime que ce traité transatlantique qui est actuellement négocié, c'est en quelque sorte l'OTAN économique. Donc pour eux, c'est vraiment une porte ouverte pour investir complètement l'économie européenne et ouvrir un marché supplémentaire, puisqu'eux sont quand même dans une crise économique un peu systémique et qu'ils ont besoin d'une expansion pour leurs entreprises, et donc en détruisant éventuellement d'autres économies. Alors après, mon Dieu, ce sont des rencontres au sommet, typiquement entre les commissaires européens ou le président de la Commission européenne, Monsieur Barroso, si je me souviens bien.
Il a changé depuis.
Il a changé, maintenant c'est Van Rompuy, Hein, tout à fait, mais dans l'historique
dans l'historique des négociations.
Voilà, dans l'historique, en fait, c'est, je dirais, une rencontre entre amis. Hein. On est à 3-4 avec Madame Merkel, Monsieur Barroso à l'époque, Van Rompuy actuellement. Et puis, en fait, en réalité, bah, il délègue une personne actuellement qui n'est élue par personne, qui est le commissaire européen au commerce, et qui est Monsieur Karel de Gucht, et qui négocie tout seul avec les Américains. Alors, il faut savoir que les Américains imposent notamment que les rencontres se fassent, notamment à l'ambassade américaine, dans des salles complètement fermées, avec interdiction de prendre des notes, interdiction d'enregistrer, interdiction de sortir des documents. Ben, c'est complètement verrouillé. Voilà. Et les parlements sont informés de temps à autre, mais n'accèdent pas en fait à la réalité, si vous voulez, quotidienne des négociations.
C'est complètement fou. Et ça, depuis combien de temps ?
Ah, depuis le début, hein. C'est depuis 25 ans, depuis qu'ils ont commencé les premiers rapprochements en 1990-91.
Ça date de cette époque, le début des négociations ?
Oui, tout à fait.
Et donc là, on arrive au terme. Donc ça veut dire qu'une grosse partie déjà a été négociée, rédigée, écrite, décidée.
Tout à fait. Parce qu'en fait, le texte de ce mandat, parce qu'en fait, le traité lui-même n'est pas encore rédigé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le texte qu'on a réussi quand même à faire mettre sur Internet, parce qu'il n'était pas avant, c'est en fait le texte qui déroule des articles de base de négociation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cadre général que devra reprendre le traité. Une fois qu'on aura
abouti. En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne trouve rien sur Internet sur ce qu'il y a réellement dans les négociations.
On trouve le mandat, c'est-à-dire, en fait, c'est ce mandat, c'est les articles.
C'est la trame.
C'est la trame qu'il faudra respecter pour aboutir à un accord, en fait.
D'accord.
Et c'est, en fait, effectivement...
Donc, on va découvrir, ce que vous voulez dire, c'est qu'on va découvrir le poteau rose une fois que ça sera signé, quoi.
Bah, qu'il n'y aura presque plus rien à faire. Une fois qu'ils se seront mis d'accord sur cette trame, en reprenant tous les termes fondamentaux, le texte va être présenté au Parlement européen et c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment découvrir l'ampleur du problème en réalité. Et sachant qu'aussi au Parlement européen, le texte leur est fourni souvent que 2 ou 3 heures ou quelques heures avant le vote et en anglais.
Non mais c'est dingue.
D'où la difficulté.
Ça veut dire que...
C'est un vote global, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de rediscuter les articles,
article par article.
Mais ils diront, on est pour cet accord ou contre cet accord. Et de toute façon, matériellement, ils n'ont pas le temps de l'étudier.
Donc on parle de négociation, mais il ne s'agit absolument pas de négociation. Il s'agit de...
Disons que sur les termes...
Il n'y a personne qui négocie,
ce sont des négociations entre... entre multinationales, lobbyistes et représentants des
qui
gouvernements.
Qui sont tous pour le même objectif. Donc, a priori, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de débat.
Voilà, tout à fait. Puisqu'en fait, il ne faut pas se leurrer, vu la composition des députés au Parlement européen, on a une majorité social-démocrate ou libérale qui est pour la libéralisation totale des marchés. Donc, de toute façon, je suis assez sceptique sur le fait que le Parlement européen deviendrait un ultime rempart. Et une fois qu'il aura voté, malheureusement, nous, au niveau du Parlement français, on se trouve devant la même difficulté.
Je reviens juste donc pour vraiment vulgariser et que tout le monde comprenne bien, la libéralisation totale des marchés, c'est vraiment la lutte contre le protectionnisme.
Oui.
Le protectionnisme, c'est la possibilité pour un État ou une institution politique de protéger ses économies locales, de protéger l'environnement, de protéger les citoyens. Et là, comme on disait en début d'émission, avec ce traité transatlantique, le TAFTA, il lui sera interdit d'interdire. Donc, toutes les multinationales ont le droit de venir saccager notre environnement,
Et de contester nos règlements et nos lois.
Et de contester les lois qui les protègent.
Voilà.
Le protectionnisme devient interdit. Et pour ceux qui voudraient brandir le droit au protectionnisme, eh ben, il faudra payer des dommages et intérêts, faire des contentieux en justice qui coûteront très cher. Et donc, ils ne le feront certainement pas.
Mais c'est aussi, et c'est très, très important à comprendre, un pas de plus vers la prise de pouvoir politique des multinationales.
Oui,
oui, tout à fait. Vers l'alliance entre les multinationales et les politiques.
Politiques sont exclus, ils s'excluent eux-mêmes.
Ils se mettent au service des intérêts économiques des grandes puissances multinationales. Voilà, tout à fait. Ils s'excluent des décisions.
Tout à fait, ils s'y soumettent. Alors, pour vous donner un exemple, en fait, du verrouillage,
il nous reste une seconde. Minutes, Nelly.
C'est que, par exemple, en fin 2012, l'assureur néerlandais Achmea reçu 25 millions d'euros de la Slovaquie parce qu'elle remettait en cause la décision de cet État souverain de ne pas privatiser en fait son système de santé. Et ils ont estimé que c'était en fait... plutôt la Slovaquie remettre... Le système de santé slovaque avait été privatisé et la Slovaquie décidait de revenir sur cela en renationalisant en fait son système de santé. Et du coup, un assureur néerlandais a reçu 25 millions d'euros de dédommagement parce que ça portait atteinte à ses possibilités de profit. Parce qu'il faut savoir que dans ces juridictions arbitrales, on va juger aussi... surtout de la perte potentielle et perte de chance de profit des multinationales. Et elles sont dédommagées sur leur future éventuelle perte de profit. Y compris aussi sur les mesures de nationalisation qu'un État souverain pourrait prendre pour protéger un secteur clé de son économie. Eh bien, on devra dédommager une multinationale de cela puisqu'on extraira du champ commercial, en fait, un secteur. Ça pourrait être la santé, l'éducation.
Il faut rappeler quelque chose de très basique, c'est que tant qu'un secteur, justement, reste public, l'éducation, la santé, etc., il reste accessible à tous et en grande majorité gratuit. Pour les personnes qui n'ont pas de moyens, vous pouvez aller vous faire soigner en France, vous pouvez aller à l'école. Oui. La privatisation, ça remet ça en cause.
Oui, alors là, je reviens sur une chose, c'est que tout est pris en tenaille. C'est qu'en fait, n'oublions pas que l'Europe a mis en place un traité de stabilité, de coordination et de gouvernance, le TSCG, qui a été ratifié par M. Hollande. C'est un traité qui avait été mis en place par M. Sarkozy et Mme Merkel, et que ce traité impose de ne pas dépasser 0,5% du déficit structurel de toutes les compositions de l'État, y compris des communes. Ah, ça veut dire qu'on oblige les communes, les États, à privatiser leurs services publics, parce qu'ils n'auront, non seulement ils n'auront plus le droit de les subventionner, mais ils n'ont plus le droit à ce déficit structurel. Voilà.
Oui. C'est on est face effectivement à un rouleau compresseur ultra-libéral extrêmement et dangereux. Et pour ça, il faut avoir s'intéresser un petit peu à l'économie. Et puis, mais c'est vrai que c'est un sujet complexe qui fait que beaucoup de monde ne s'y intéresse pas. Ou en tout cas, il n'y a pas que ça qui fait qu'on ne s'y intéresse pas. C'est que de toute façon, on n'en est pas informé. Les médias n'en parlent pas. Comment on fait aujourd'hui pour être informé sur le TAFTA ?
Vous tapez sur Internet, sur Google, Stop TAFTA, vous trouverez tous les renseignements que vous voulez. Vous avez aussi d'excellentes informations sur le site d'Attac, notamment Attac Lyon, qui vous expliquera, parce qu'on n'a pas assez de temps pour vous expliquer la partie juridique.
Non, là, c'est fini.
Voilà. Mais qui vous expliquera comment, en fait, la Constitution française, qui pour certains est encore une protection, est un leurre total juridique.
Donc, le site d'Attac, Stop TAFTA.
Voilà, et l'excellent livre qui m'a permis de faire ces présentations avec son accord, c'est le livre de M. Raoul Marc Génard, qui est un économiste belge, qui a écrit un petit bouquin excellent qui s'appelle « La menace sur les peuples d'Europe ». Le grand marché transatlantique, il ne coûte que 5 euros. Et là, vous avez tout, parce que vous avez le texte du mandat de négociation avec, en encarté, les explications, parce que vous verrez que c'est un vocabulaire technocratique incompréhensible.
D'accord, donc c'est très bien un bouquin qui nous permet justement de traduire ce vocabulaire incompréhensible de façon simple. C'est Raoul Marc Génard, « Le grand marché transatlantique, la menace sur les peuples d'Europe ». Voilà. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation. Un dernier mot aujourd'hui pour ceux qui sont sensibilisés du coup à ce grand danger. Qu'est-ce qu'on peut faire face au TAFTA ?
Eh ben, à partir des sites, déjà, il y a des pétitions à signer. Il y a aussi, quand il y a des réunions d'information, c'est bien d'y aller et puis d'y amener ses amis. Parce qu'il faut que l'information circule au maximum.
Aujourd'hui, la principale chose qu'on puisse faire, c'est informer.
Et d'interpeller aussi personnellement nos députés, puisque ça, on peut le faire par mail. Leurs mails sont sur Internet. Il suffit de taper Conseil général, Conseil départemental, Assemblée nationale. Et sur l'Assemblée nationale, vous avez la liste de vos députés par département et vous pouvez leur envoyer un mail.
Et puis pour les plus courageux comme Frédéric Jacquemart, eh ben on peut porter plainte.
Absolument.
Merci beaucoup à tous. Bonne continuation.
Merci. Merci à vous.
Beaucoup de gens nous détestent, ils voudraient être comme nous. Reconnaissant que dans le monde, y'en a peu classe comme nous, les ritales. Je viens de là où parler avec les mains c'est vital. Montre coup le bras à la place d'une jambe à l'hôpital. Je viens de là où le sourire s'affiche sans complexe. Où les relations avec la loi sont difficiles et complexes. De là où les cités sont ennemis, puis les temps immémoriaux sans cesse au même colon. Venu d'Espagne, du monde arabe ou de France, du royaume normand, je viens de là où la terre ferme prend l'endormant. Là où on se pète un plat de penne arrabbiata sur une terrasse au soleil, relax avec des grosses losas. Je viens de là où les maisons se font et se finissent pas. De là où les équipes et les quartiers ne s'unissent pas. Où la majorité s'acquiert dans la strada. Où on rêve tous de luxe, de femmes qui claquent et de costumes Prada. De là où y'a plein de gens honnêtes aussi, des travailleurs qui se lèvent et des fous qui vivent des rêves de dancing. Des boîtes de nuit qui jouent du, des putains de bandits qui jouent du. Je viens de là où sur les murs y'a les avis de décès. Là où Pipo plonge quand il joue les blessés. Où les mecs préfèrent aux hommes, les animaux seuls. Car très étrangement ils aiment tout ce qui ferme sa gueule. La ville ou à peu près synonyme de très bien. Faut pas nous en vouloir, c'est un système mis en place de très loin. Là où les filles sont belles et les frères jaloux. Mais comment dire une fois libre, se laisse aller haut. Quand elles sont seules de là-haut, viennent Alban et Romina. Là où les mômes défilent en ville avec 6 kilos de gomina. Sur les scooters à 3, tension, sac à main. Ici le rétroviseur, fait office de glace, de salle de bain. Je viens de là où les blondes généreuses squattent la télé. Blonde, elle complexe mon frère, la Méditerranée, tu sais. Là où les cartouches de clopes sont bourrées de sciures. Là où on te fait un Nike sur la figure. Où les paris clandestins embrasent un pâté entier de maison. Si bien que tu vois les choses tirer la bourre dans la rue. Là où les petites stars du foot tirent court dans la rue. Là où les petits caïds de 12 ans tirent tu dans la rue. Je viens de là où les mères lisent et disent l'avenir dans le tarot. Où on a dû le sang de San Gennaro. Santa Lucia, dis-moi comment va le Vésuve et l'Isola Verde. Où gosse je baladais, je me perdais. Je viens de là où les bougainvilliers sont immenses. Mon émince, mais où l'hospitalité est immense. Où les gens ont le sens du secret. C'est pas qu'ils se tairent, mais ils savent que si on a rien de bon à dire, alors vaut mieux se taire.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 8h à 9h. Toutes les émissions sont également accessibles sur le www.radio16.net.